L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
À 22 ans seulement, il fit ses premiers pas dans le journalisme, salué notamment par Chateaubriand. À 25 ans, il enseignait déjà un cours d'histoire à la faculté, et quelques années plus tard, il contribua à généraliser l'enseignement primaire en France. Il fut aussi l'un des premiers à se soucier de la préservation de notre patrimoine national. Bref, cet homme a laissé une empreinte considérable sur son siècle, je parle de François Guizot. Il figure en 2024 dans le calendrier de France Mémoire, la mission des commémorations nationales, mais l'œuvre politique de cet homme est aujourd'hui pourtant assez méconnue, et c'est bien dommage car nous pourrions nous en inspirer beaucoup plus. C'est la thèse de notre invité de la semaine, Jean-Miguel Pierre. Jean-Miguel Pierre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'EPHE, l'École pratique des hautes études, et vous vous intéressez de près aux questions éducatives. Vous avez même travaillé un temps au ministère de la Culture. Et puis vous écrivez aussi beaucoup. Vous avez une riche actualité éditoriale sur François Guizot. Vous avez écrit une notice pour France Mémoire il y a quelques mois. Et puis il y aura aussi un livre, Guizot, la politique de l'esprit, qui va sortir début décembre. Alors, je voulais commencer en faisant ce constat. Les étudiants de la Sorbonne connaissent bien l'amphi Guizot, mais savent-ils vraiment qui est l'homme qui a donné son nom à cette salle mythique de l'université? Peut-être pas. Alors, Jean-Miguel Pierre, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement d'où vient-il? Qui est François Guizot exactement?
D'abord, merci beaucoup de votre invitation, qui me touche beaucoup. Et effectivement, Guizot, dans l'histoire politique française, est une espèce de mystère. Mystère vraiment saisissant, puisque ça a été un homme qui a énormément pesé dans l'histoire intellectuelle et politique de son temps, et qui a pratiquement disparu des mémoires, et qui a une, quand on le connaît, une très mauvaise réputation.
Pourquoi ?
Alors, c'est ça qui est très étrange, c'est qu'effectivement, bon, chaque individu est complexe, les vies sont complexes, les vies politiques. Il y a des choses qui sont effectivement à l'aune de nos valeurs d'aujourd'hui qui paraissent très répréhensibles. Et c'est celles-là qui ont été retenues contre lui et pas les choses positives qu'il avait faites et qui continuent à peser finalement, au sens très positif, sur l'évolution de nos institutions et notamment sur la place de la liberté, la place de la connaissance, la place de la culture dans notre société. Et bizarrement, il a été résumé à un tout petit morceau de discours qu'il a prononcé devant la Chambre des députés, alors qu'on lui demandait l'élargissement du sens électoral, donc d'élargir la possibilité de vote pour la population, il aurait répondu « enrichissez-vous », sous-entendu, pour gagner le droit de vote, mais il suffit d'accumuler des richesses, et puis c'est ça qui vous donnera la possibilité de voter, ce qui évidemment est très très choquant, et d'autant plus choquant que c'est pas l'esprit dans lequel il l'a prononcé, et quand on connaît la phrase en entier, c'est « enrichissez-vous par le travail et par l'épargne ». Il y avait quand même une dimension morale dans cette histoire. Reste que un des grands projets de Guizot, qui était finalement d'élargir, de permettre les conditions de la démocratie à moyen terme, s'est brisé dans la Révolution de Juillet. En 1848, finalement, son projet politique s'effondre. Alors, par quoi commencer? Effectivement, je dirais que Guizot est une personnalité qui se caractérise par le fait d'être ce qu'on appelle, qui était très courant finalement au XIXe siècle, un savant politique. C'est-à-dire, il a les deux dimensions. C'est d'abord un homme de science, c'est un grand historien, il a été professeur à la Sorbonne, il a énormément publié, et c'est en même temps un politique, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est mouillé, qui s'est jeté dans l'arène politique et qui a été ministre pendant pratiquement la totalité du régime de Juillet, de la monarchie de Juillet.
Alors, avant de parler de son action politique, je voulais parler de son destin qui fut assez fulgurant. À 25 ans à peine, il donnait déjà un cours, il enseigne l'histoire moderne. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il va en profiter aussi pour écrire ses œuvres les plus importantes. Je pense par exemple à l'histoire de la civilisation en Europe, l'histoire de la civilisation en France. Est-ce que ce sont des livres qu'on lit encore aujourd'hui ?
Comme tous les historiens du 19e siècle, il est un peu passé de mode. En fait, il y a encore quelques figures qui dominent, comme Michelet, mais l'œuvre de Guizot, finalement, est connue des connaisseurs, et Marx lui-même lui rendait hommage, parce que c'est un historien des faits historiques, mais aussi des idées. C'est-à-dire qu'il a une vision de l'histoire très articulée aux grandes idées, et en particulier, c'est dans le titre de ses livres, l'idée de la civilisation comme un élément vraiment structurant de l'évolution des sociétés. Quand on essaye d'avoir une lecture qui s'appuie sur l'histoire des idées, on va volontiers voir un peu ce que Guizot a écrit et comment, notamment, il a lu l'histoire française à travers la question de l'émancipation. Comment la question de la liberté, qui naît dans la période médiévale, notamment dans les villes, avec les libertés gagnées dans les cités, va progressivement se déployer et va être un élément explicatif, évidemment, de la Révolution française et va structurer tout le 19e siècle. Donc, on a une idée qui est extrêmement précise, qui est très informée, très documentée. Guizot insiste beaucoup sur le rapport aux documents authentiques, et ce sera d'ailleurs un aspect de sa politique quand il sera ministre. Mais c'est une histoire qui est très structurée par des idées, par une lecture intellectuelle des mouvements historiques qui, sinon, sont juste une accumulation d'événements. Guizot croit beaucoup à une ligne qui, l'histoire lui a donné raison, finalement, notre démocratie actuelle s'inscrit dans la continuité de toutes ces grandes étapes que Guizot a repérées au cours des périodes précédentes.
Donc Guizot, théoricien, il enseigne dans la première partie de son parcours à l'histoire. Il est tout jeune, mais très vite, la politique va le titiller, en fait. Et donc, on en arrive à la partie politique, du savant politique. Oui. L'enseignement, c'était pas assez suffisant pour lui. Très vite, en fait, il a su qu'il fallait qu'il fasse de la politique, qu'il s'engage.
Alors, tout est lié, en fait. Je pense que quand vous acquérez une conscience, une connaissance des événements qui ont conduit à ce que vous avez vécu, il y a un moment donné, vous ne pouvez pas rester passif devant ce qui se passe. Et il se trouve que Guizot fait partie de cette génération qui était trop jeune pour avoir vraiment été acteur dans les événements qui ont commencé à partir de 1789. Il faut bien se dire que quand il commence finalement sa vie intellectuelle, 1815, 25 ans sont passés, qui sont peut-être les plus intenses qu'ait connue l'histoire française. Cette génération, qu'on va appeler la jeune école libérale, les libéraux doctrinaires, est très attaché finalement aux acquis de la Révolution française, au meilleur finalement de 1789, la liberté, la rationalité, mais a envie finalement de refroidir un peu les choses et a envie qu'on tourne la page des passions pour rentrer dans le siècle de la raison. Et pour ça, il faut être un acteur, en fait. Donc, au fond, le Guizot savant, le Guizot intellectuel, historien, a envie de mettre ses ressources intellectuelles au service de l'action pour pouvoir vraiment peser sur les événements, et en l'occurrence, les événements, quels sont-ils? C'est la Restauration, ces 15 années où la France commence à sortir un peu du chaos, mais elle hésite. La France de la Restauration est une France qui ne peut pas détricoter les acquis de 1789, mais regarde quand même du côté de l'Ancien Régime. La Restauration, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est la restauration de l'Ancien Régime. Malgré tout, ça reste un régime qui commence à être parlementaire, qui commence à être libéral, mais qui ne rompt pas complètement avec certaines choses qui sont inacceptables. Et la génération de Guizot veut finalement poursuivre la modification de la société et basculer vraiment dans l'âge de la rationalité, l'âge d'un gouvernement fondé sur la raison. Et c'est un des concepts très structurant dans sa pensée et dans son action, qui résume un peu cette démarche. C'est là l'idée que le gouvernement est fondé sur la souveraineté de la raison.
Alors, son œuvre politique est fortement associée à la monarchie de Juillet, qui arrive donc après la Restauration. C'est une période qu'on connaît assez peu aujourd'hui, mais qui fut extrêmement riche, vous venez de le dire, marquée par de nombreuses réformes politiques. Alors, avant d'en parler, un mot très bref sur la chronologie. À quel moment arrive ce régime politique, la monarchie de Juillet? Donc, juste après la Restauration, comment il
se... Alors, ce qui se passe, c'est 1830, en fait. C'est la révolution des Trois Glorieuses, des Trois Journées de Juillet, qui est une révolution bourgeoise, entre guillemets, avec un fond populaire, mais qui est quand même, qui correspond aux aspirations d'une bourgeoisie qui commence à avoir, depuis la fin de l'Empire, les moyens économiques de ses ambitions, mais être bloquée par le régime de la Restauration qui continue finalement à privilégier une partie de l'aristocratie d'Ancien Régime. Et 1830 correspond à cette volonté de tourner vraiment la page et de s'ouvrir à la prospérité, à la connaissance, à l'éducation, et de rompre avec un système qui est, notamment sur les questions religieuses, reste quand même très attaché à une vision traditionnelle et un peu aliénante, au fond, en tout cas, qui inhibe les énergies qui se développent à ce moment. Donc 1830, c'est un vrai moment de rupture, et en même même temps de continuité, puisque la charte qui avait été accordée par Louis XVIII en 1814, la charte donc qui est la constitution de l'État, est reprise par le nouveau régime, et elle est modifiée, notamment sur le point de la religion, par exemple, qui dans... Et c'est un point important, parce que ça dit beaucoup de la façon dont la France va vraiment se libérer de toute structure transcendante, notamment religieuse. Dans la charte de 1814, la religion est la religion de l'État, la religion catholique est la religion de l'État. En 1830, elle devient simplement la religion de la majorité des Français. Donc, elle n'a plus de valeur constitutive. Et ça en dit long de la page qui s'ouvre en 1830, c'est-à-dire un régime qui va être fondé vraiment sur la souveraineté du droit, sur le parlementarisme réel. La Restauration avait commencé, mais c'était un peu ambigu, et Charles X avait vraiment tourné le dos aux libertés parlementaires. La monarchie de Juillet va vraiment jouer le jeu du parlementarisme et va fonder, va poser les bases de nos pratiques parlementaires qui sont toujours les nôtres aujourd'hui. C'est pas un régime démocratique, mais c'est un régime qui pose les premiers fondements d'un régime démocratique, et notamment aussi la liberté de la presse. Et donc voilà, ce sont ces choses-là qui s'ouvrent, et Guizot est un des protagonistes de cette période. Il a été dans l'opposition durant la Restauration, il a été parlementaire, et à partir de 1830, il devient ministre du nouveau régime, et en particulier ministre de l'Intérieur dès 1830.
Donc en fait, il a été un des précurseurs, enfin, il y adhère totalement à ce nouveau projet.
Non seulement il y adhère, mais il l'a préparé. Il l'a préparé, on peut dire que la Révolution de Juillet est en partie l'œuvre des libéraux qu'on appelle doctrinaires, pour les distinguer d'autres groupes libéraux, qui sont des libéraux qui sont très soucieux d'avoir une approche pragmatique du gouvernement et qui, quand ils sont dans l'opposition, vont développer des discours, et il y a beaucoup de discours à la Chambre des députés, à la Chambre des pairs, où on les voit développer des réflexions politiques qui sont fondées sur le pragmatisme. Donc, ils préparent ce système, cette vision du gouvernement, d'un gouvernement qui doit correspondre à l'état de la société, qui doit répondre aux besoins de la société sur des bases rationnelles, concrètes, et non plus sur des bases qui appartiennent encore en partie à des critères qui ne sont pas purement rationnels. Et ce sont des hommes qui vont mettre les choses en place. Au ministère de l'Intérieur, par exemple, une des premières actions de Guizot qui nous mène finalement à évoquer un des grands pans méconnus de son action culturelle, entre guillemets, c'est la création, dès le mois de novembre 1830, donc la révolution a eu lieu en juillet, donc nous sommes en novembre, il est ministre de l'Intérieur, il crée l'inspection des monuments historiques, qui sera la première administration dédiée à la protection des monuments historiques, qui va être popularisée par Mérimée, qui est l'un des titulaires de l'inspection des monuments historiques. Mais c'est Guizot qui l'a créé. Alors, il l'a créé, ça ne sort pas tout armé de sa tête. C'est le fruit d'une longue réflexion sur l'idée que les monuments doivent être protégés indépendamment de leur symbolique politique ou religieuse, qu'ils doivent être considérés pour leur valeur artistique. Et ça indique finalement une des orientations que va prendre ce régime, c'est de se fonder sur une approche qui essaye de refroidir les passions, je le disais tout à l'heure, et de favoriser la raison. Pour chaque sujet, considérer les questions pragmatiques et voir ce qu'il y a lieu de faire, indépendamment de tout préjugé politique, religieux ou intellectuel. Et ça donne un peu l'indication de la politique qui va être menée.
S'attarder sur les vrais besoins de la société, vous avez dit donc qu'il était au ministère de l'Intérieur. Durant ce régime, il a aussi été ministre de l'Instruction publique, ministre des Affaires étrangères, président du Conseil. Il était omniprésent durant ce régime, cette monarchie de Juillet, François
Guizot. Alors, il est effectivement omniprésent. Et je dirais que, pour bien comprendre, il faudrait distinguer deux périodes. La première période qui va jusqu'à 1840 et une seconde qui va jusqu'en 1848. La première période, c'est un Guizot qui correspond à son projet. C'est un Guizot très rationnel, très concret, très pragmatique et qui va notamment déployer un des aspects qui correspond à cette figure du savant politique, c'est-à-dire un homme qui dédie sa vie à la recherche de la vérité, à la recherche de la connaissance quand il est universitaire, mais qui s'attache aussi, quand il est au pouvoir, à non seulement gouverner rationnellement, mais aussi à faire en sorte que cette rationalité, que cette raison, que ces connaissances, que cette intelligence deviennent un projet pour le reste de la société. Et c'est là qu'il va développer ce qu'on peut appeler sa politique de l'esprit. C'est-à-dire, Guizot parlera lui-même de gouvernement des esprits. Alors là aussi, on l'a mécompris, c'est-à-dire le gouvernement des esprits, c'est pas le contrôle des esprits, c'est l'idée qu'il faut mettre l'esprit, c'est-à-dire la connaissance, l'intelligence, au cœur des politiques publiques, et en particulier des politiques de l'éducation, des politiques de la recherche, des politiques de la mémoire. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Guizot, comme savant politique, comme politique, va mettre en œuvre ses politiques, mais comme savant, il va aussi les réfléchir, il va aussi les théoriser, il va énormément écrire dessus, et c'est ça qui est très rare, finalement, dans l'histoire politique, c'est que nous avons une figure qui a mis en place des politiques et qui nous donne le mode d'emploi, en fait, qui nous donne les intentions. Et les intentions sont sans aucune ambiguïté s'agissant de Guizot. Il s'agit vraiment d'inaugurer une période où l'état de droit, le pouvoir politique, doit jouer un rôle dans la création d'un espace qui est favorable au développement de l'intelligence, de la connaissance, de l'éducation. En gros, ce que nous dit Guizot, c'est que un État qui estime être fondé sur le droit, qui est un État de droit, ne peut pas considérer ses politiques comme facultatives, sinon il ne peut pas mériter ce nom d'État de droit, en fait. Et très concrètement, sur la question de l'éducation, et vous l'avez dit, il a été ministre de l'Instruction publique, c'est le père de l'Instruction publique. Bien avant Jules Ferry, qui lui rendra d'ailleurs hommage, dès 1833, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait voter cette loi, une loi sur l'instruction primaire universelle, qui va répandre l'instruction primaire dans toutes les couches de la population, et c'est aussi une chose très importante, également chez les filles. Donc il ne fait pas de différence, il faut attendre 1836, mais 3 ans plus tard, les filles sont aussi concernées, c'est-à-dire concrètement, la totalité de la population en âge d'être scolarisée a accès à l'école primaire, à l'apprentissage de l'alphabétisation, du calcul, des éléments fondamentaux de la connaissance, pour les meilleurs des sujets, les meilleurs des élèves, la possibilité d'avoir accès à des bourses qui leur permettent de poursuivre leur carrière scolaire. C'est une révolution. La révolution française qui avait évoqué l'instruction des masses et l'éducation populaire n'avait rien fait de concret. L'Empire non plus. L'Empire a été très important pour la création de l'enseignement secondaire, les lycées, on connaît les lycées impériaux. L'instruction populaire a toujours désintéressé tout le monde. Et c'est ça le cœur du discours de Guizot, c'est de dire, il faut aller vers la démocratie, mais une démocratie dans une population qui est analphabète, c'est préparer au fond le plébiscite et le retour de la dictature, au fond. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Là, je saute peut-être quelques décennies, mais ce qui se passe après la monarchie de Juillet, l'arrivée de l'Empire, c'est le plébiscite. Napoléon III est largement plébiscité par une population qui reste encore moyennement alphabétisée. Donc, dans l'idée de Guizot, donner l'instruction à la population, c'est préparer une démocratie où chaque citoyen pourra vraiment comprendre ce qui lui arrive et pouvoir contribuer au bien commun.
Il faut se donner les moyens de se développer économiquement, intellectuellement. Vous avez cité cette loi de 1833 sur l'instruction primaire. Il y a eu énormément d'autres réformes durant cette monarchie de Juillet. Vous parlez de volontarisme culturel inédit sous cette monarchie de Juillet. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Tout à fait. L'idée d'un volontarisme culturel inédit, ça veut dire qu'il y a une volonté particulière dans les champs qu'on appellerait aujourd'hui la culture, dont je pense qu'on peut légitimement avoir une définition extrêmement large. Donc, ça va de l'éducation à la recherche scientifique, à la mémoire, à la vie culturelle, au développement des beaux-arts, etc. Donc, c'est-à-dire, effectivement, concrètement, l'engagement de l'État dans la création d'un espace qui est favorable à la culture et une culture qui n'est pas entièrement dépendante du marché, mais qui peut s'appuyer sur l'aide publique. Et dans des domaines où, si l'aide publique ne supplée pas, eh bien, les marchés n'y pourviendra pas. Et en l'occurrence, l'exemple le plus évident, c'est la recherche scientifique. La recherche scientifique a besoin d'une démarche désintéressée, a besoin d'un engagement public qui n'attend pas de résultats à court terme. Et en particulier, Guizot a soutenu la recherche telle qu'elle se faisait à l'époque, c'est-à-dire dans le champ académique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe le CNRS, il existe des institutions qui sont dédiées à la recherche fondamentale. Au XIXe siècle, des telles institutions sont beaucoup plus rares. Et au fond, ce sont les académies, le tissu académique qui s'est développé dès l'Ancien Régime, qui est extrêmement volontariste et tellement protagoniste de cette recherche fondamentale. Et il y a un acteur central de cette recherche, et vous êtes plutôt concerné, puisqu'il s'agit de l'Institut de France, qui est considéré par le nouveau régime comme un acteur important de cette recherche, et en l'occurrence, l'Académie des sciences morales et politiques, qui en fait est une sorte d'héritière de la classe des sciences morales et politiques qu'avait créée Bonaparte. Guizot souhaite la refonder, et c'est ce qu'il fait dès 1832, en lui donnant de nouveaux moyens et en la chargeant finalement d'assurer le développement institutionnel de cette nouvelle branche de la connaissance qui est directement liée à cette souveraineté de la raison qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire de fonder la politique sur la rationalité au fond. Et c'est un des exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, du volontarisme de Guizot dans le domaine de la recherche. Un autre qui est très lié à sa nature d'historien, c'est le souci pour les archives. Guizot fait partie de cette école historique qui est soucieuse de fonder les connaissances sur des sources authentiques. Les sources authentiques, ce sont les documents écrits, les chartes, les textes sur lesquels on peut s'appuyer avec certitude. La Restauration avait déjà commencé en créant l'école des chartes en 1823, mais Guizot la renforce et en fait de cette connaissance authentique l'objet d'une politique extrêmement ambitieuse, avec notamment la création du comité des travaux historiques qui va assurer la publication massive des textes les plus importants de l'histoire française. Et ce comité existe toujours et il a assuré la mise à la disposition des chercheurs d'un ensemble de documents absolument considérable qui a vraiment changé le visage de l'histoire française. Il y a aussi un fort volontarisme dans le domaine muséal, avec cette idée que les musées sont des lieux qui sont des lieux de connaissance, mais une connaissance qui n'est pas seulement livresque ou intellectuelle, c'est une connaissance aussi sensible qui joue avec la sensibilité directe, l'émotion, la méditation que l'on peut avoir devant des œuvres d'art. Et un des beaux exemples qui n'est pas loin d'ici, c'est le musée de Cluny, qui est un musée dédié au Moyen-Âge, qui était en fait une collection privée d'Alexandre Sommerard, qui était un collectionneur qui avait énormément accumulé de documents, d'objets sur le Moyen-Âge, qui a fait acheter à l'État sa collection, et la monarchie de Juillet a décidé de faire cet effort budgétaire qui était considérable pour créer ce musée. Il y a aussi le musée de Versailles, le musée dédié à toutes les gloires de la France. Enfin, il y a toute une série de choses. Et là aussi, nous avons sous les yeux des musées dont on ignore l'origine et qui sont directement liés à ce régime méconnu et à ce volontarisme culturel que Guizot apportait.
Est-ce qu'à côté de ces discours politiques, il existe un espace où il prend le temps de théoriser tout ça ?
Alors, l'espace où il théorise tout ça, c'est l'espace des livres. Guizot, finalement, en 1848, quitte la vie politique et il va vivre jusqu'en 1874. Donc, une très longue vie dédiée à beaucoup d'activités académiques. Il fait partie de l'Académie des sciences morales, mais aussi de l'Académie française.
Triplement académicien, même.
Et des inscriptions et belles lettres, exactement.
Ce qui en fait assez rare.
Et il va pouvoir consacrer une grande partie de son activité intellectuelle à écrire des livres, et notamment un document majeur qui sont ses mémoires, qui sont effectivement le mode d'emploi, en quelque sorte, de son action politique. Et c'est dans les mémoires que j'ai trouvé les textes les plus emblématiques, où il explique justement la continuité et la cohérence qu'il y a entre ces différents domaines politiques que l'histoire finalement connaît bien. On connaît son action pour l'instruction publique, on connaît son action pour les musées, pour les archives, mais en général, on l'a rarement relié à un ensemble cohérent. Et c'est évidemment, si j'ai un petit apport dans mes recherches, c'est cet aspect-là que j'ai voulu mettre en avant et montrer qu'au fond, Guizot est un peu l'ancêtre de Malraux et l'ancêtre de Jack Lang. C'est lui qui crée ce compagnonnage que, à partir de là, l'État moderne français va avoir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la culture, qui s'inscrit bien sûr dans l'ancien mécénat royal, puisque depuis de toute éternité, les rois de France ont été proches des artistes et aussi des savants, notamment le cas de François Ier, qui est une figure aussi très moderne, qui s'intéresse au développement de la connaissance, qui crée le Collège de France et qui, à côté de l'université, entend développer des ressources pour la connaissance indépendamment de l'influence religieuse. Donc tout ça ne part pas de rien, mais il se trouve que avec Guizot, on a un coup d'accélérateur qui est donné et qui est d'autant plus emblématique, qui s'articule avec la naissance de l'État parlementaire contemporain. Et c'est ces deux éléments-là qui vont marcher du même pas, mais d'une façon presque invisible, au fond. Et je pense que c'est très important et c'est intéressant de remettre la lumière sur cette action-là, sur ce moment-là, à un moment donné où, aujourd'hui, la culture est un peu en perte de vitesse, la connaissance, la recherche, à l'époque des fake news, où on se dit que la vérité est un peu une alternative ou facultative, c'est pas inintéressant de remettre en lumière la responsabilité de l'État démocratique pour développer ce secteur qui, sans lui, est bien faible.
Mais c'est ce que vous dites, on devrait s'inspirer de ce volontarisme culturel. Mais n'est-ce pas déjà le cas aujourd'hui ? L'instruction à l'école, elle est consacrée, les études supérieures sont démocratisées. Où est-ce que l'État peut intervenir aujourd'hui ?
Alors, l'essentiel de ces politiques a une place importante dans, dans notre société, spécialement la France se caractérise par une très grande importance donnée à la politique culturelle. Moi, j'aurais plutôt une vision à moyen terme, observant que depuis quelques années, ce discours est en perte de vitesse.
Chez les politiques ?
Chez les politiques, on voit bien qu'au moment des grandes élections présidentielles, le projet culturel n'est plus structurant du débat public. La politique scolaire, qui est peut-être le plus préoccupant, parce que c'est bien de créer une offre culturelle, mais il faut aussi des gens qui soient capables de la goûter, et aussi des gens qui soient, au-delà de la culture, capables d'agir en citoyen, d'avoir le rapport à la connaissance, d'avoir la curiosité, d'avoir le goût, et aussi les ressources pour pouvoir juger d'événements, de réalités qui sont par ailleurs toujours de plus en plus complexes. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de distorsion entre une éducation qui a de plus en plus de mal à transmettre les fondamentaux et un monde de plus en plus complexe où, au fond, les gens qui n'ont plus accès à ces ressources de connaissances sont tentés par des démarches radicales, simplificatrices, et des votes politiques qui sont très loin de la complexité démocratique. Donc, je dirais, oui, tout ça est extrêmement préoccupant, et je pense qu'il faut une prise de conscience politique aujourd'hui, notamment pour les politiques éducatives. Il faut que l'école redevienne une grande priorité. Finalement, si on suit mon raisonnement, l'État moderne parlementaire pré-démocratique, né en 1833, au fond, avec cette grande loi sur l'instruction primaire, je pense qu'aujourd'hui, il faut refaire de l'école une priorité de notre pays, et il faut redonner, et c'est peut-être là aussi qu'il est intéressant d'aller voir chez Guizot comment il a imaginé son projet. Pour Guizot, son projet de 1833, c'était donner à l'instituteur une place absolument majeure. C'était faire de l'instituteur, dans chaque village, dans chaque ville, une figure de notable, quelqu'un de respecté, qui soit vraiment le dispensateur de la connaissance. Quel est le statut de nos enseignants, de nos instituteurs, de nos professeurs aujourd'hui dans notre société? Quel est le niveau de leur rémunération? Donc, voilà, ce sont des questions très élémentaires, mais je pense qu'une société qui veut préserver sa démocratie doit se poser la question de la place qu'elle donne à ses enseignants, qui sont les soutiens de la connaissance et de la transmission démocratique.
Et vous pointez aussi d'autres menaces. Pour donner un exemple, vous parlez notamment de la captation de notre attention par le numérique. Ça, c'est une menace très sérieuse qu'il faut considérer urgemment.
Absolument, je pense que c'est le point le plus préoccupant. Jamais aucune société n'a été confrontée à un tel risque et à une telle captation de ce qui est sa ressource la plus précieuse en matière de connaissance, d'intelligence, d'accès à la complexité, qui est son attention. La capacité de se concentrer, la capacité de se fixer sur un texte, sur une idée, sur une conversation, sur une œuvre, et de développer une réflexion personnelle, de développer un jugement, de développer un goût, de développer aussi une capacité de discuter de ses opinions et de les argumenter avec des connaissances établies rationnellement. C'est cela qui est actuellement menacé par ce que j'appelle dans un autre livre les industries du temps libre, au fond. Les industries du temps libre qui se sont développées en même temps que la formidable accès d'un très grand nombre de gens à une quantité de temps libre qui est tout à fait inédite dans l'histoire du monde. Jamais autant de gens, en Occident en tout cas, n'a eu accès à autant de temps libre. Or, le problème, on le voit bien, c'est qu'avec notamment les interactions numériques et avec la possibilité d'accéder en tout lieu, à tout moment, à nos écrans, nous voyons bien que nous sommes soumis à des tentations qui relèvent plus simplement d'une aspiration culturelle, d'un goût de divertissement, mais qui relèvent d'un processus qui est bien connu dans les psychotropes, qui est une addiction, en fait. Et c'est là que le danger le plus radical se trouve, c'est que ces industries du temps libre numérique, et notamment celles qui développent les réseaux sociaux, constituent leur offre, fabriquent leurs écrans, le design de leur site sur des critères d'addiction, c'est-à-dire qu'elles recourent à des connaissances pour rendre leur contenu addictif et pour simplement priver les utilisateurs de leur libre arbitre, en fait. Parce que quand vous êtes dans l'addiction, bien simplement, vous êtes dans la servitude. Or, la connaissance, la rationalité ne peut s'entendre que sur la base de la liberté, de la connaissance. Et autant ce mot, aujourd'hui, est un peu, finalement, dégradé, la liberté, nous en jouissons tellement que, finalement, nous ne mesurons plus son importance. Moi, je parle beaucoup plutôt de servitude. Vous croyez être libre, mais en fait, vous êtes dans la servitude quand, pendant une journée entière, vous avez passé 5 heures, 6 heures sur votre écran et que vous avez l'impression, après ces 6 heures, que vous n'avez rien fait d'intéressant. Ben voilà, là, vous êtes vraiment dans une confiscation qui n'est pas seulement une confiscation de votre temps de cerveau disponible, c'est une confiscation de votre capacité d'être un individu libre et d'être capable d'agir en citoyen, contribuant au bien commun. Là, vous êtes simplement dans la servitude et vous êtes prisonnier finalement d'un algorithme dont le seul objectif est de vous transformer non seulement en consommateur, mais en bien de consommation, puisque votre temps, c'est leur argent en fait. Donc le risque que je pointais avec l'école, il se retrouve directement sur cet aspect-là. Je pense que l'éducation nationale peut jouer un rôle absolument considérable pour toucher le plus grand nombre d'enfants et pour leur donner les possibilités de gérer cet outil, parce qu'il ne s'agit pas de renoncer aux écrans, ils nous apportent énormément de ressources et de facilités, mais il faut pouvoir les gérer et il faut pouvoir leur consacrer un temps limité. Et mon dernier livre porte sur cette question de l'usage du temps que l'on peut faire, et l'osium du peuple, et comment on peut finalement récupérer ce temps pour en faire un outil de liberté.
Alors il y a eu cette proposition de loi pour lutter contre la surexposition aux écrans, il faut aller encore plus loin. Est-ce que vous avez des recommandations plus concrètes ?
Je pense que, effectivement, la loi peut jouer un rôle de garde-fou, comme finalement avec la cigarette, puisque, si pour filer la métaphore de l'addiction, il y a 20 ans, la cigarette était présente partout, et il a fallu une très longue prise de conscience, il a fallu la loi pour interdire certains lieux, etc. Je pense que s'agissant de notre temps de cerveau disponible, entre guillemets, la loi doit être manipulée avec beaucoup de précautions. Je pense que la loi, elle est d'abord interne. Elle est d'abord dans sa propre autodiscipline, dans d'abord la prise de conscience de ce que je viens de dire, c'est-à-dire le risque que chaque individu prend à livrer son temps à ces algorithmes liberticides, une prise de conscience et ensuite le développement d'actions qui passent par la gestion de son propre temps, en fait. Et l'idée qu'une partie de ce temps libre peut être dédié à la construction de sa liberté. Je m'entends, le temps libre, effectivement, il est souvent dédié au divertissement, au repos, et c'est heureux, et il faut pouvoir se détendre, se relaxer, et pouvoir faire des choses que l'on n'a absolument pas à justifier. Mais je pense qu'une partie de ce temps libre peut aussi être consacrée au développement de ce qu'on peut appeler, au sens très large du terme, notre intelligence, c'est-à-dire notre capacité à comprendre le monde, à développer un discernement, à agir comme un individu autonome, qui a un libre arbitre et un fort intérieur. Et aujourd'hui, cette idée que l'on peut finalement féconder une partie de ce temps libre nous est très compliquée, très difficile à saisir parce qu'il n'y a pas de mot, en fait, pour la définir. Et que pourtant, ce mot existait et qu'il est un mot central dans l'histoire de la culture, de notre culture occidentale. C'est un mot décisif dans l'avènement de nos libertés. C'est le mot « osium » qui définissait pour les Romains le loisir fécond et qui, pour les Grecs, s'appelait scolé, était un élément absolument majeur de la vie de tout individu. Pourquoi ? Parce que les anciens avaient compris que l'individu, l'être humain, se distinguait par son intelligence, par sa capacité de comprendre et sa capacité de se libérer des préjugés, des servitudes. C'est pourquoi le temps qui était consacré à cette intelligence était pour eux le plus précieux. Et aujourd'hui, alors que pendant des siècles, ce temps-là était très rare et que les gens qui avaient accès au temps libre étaient un tout petit nombre et que finalement cette idée d'osium a été associée à cause de son usage sociologique à une sorte d'aristocratie, une sorte de luxe aristocratique et qu'on a confondu finalement cette puissance existentielle qu'il y avait dans la démarche du loisir intelligent avec son usage réservé à quelques-uns. La donne a changé aujourd'hui. Jamais autant de gens, je l'ai dit, n'a eu accès à autant de temps libre. Donc la question n'est plus l'accès au temps libre, la question est son usage. Et je pense que comme nous n'avons pas de mots, nous ne pouvons pas le valoriser. Et rien dans notre société ne valorise ce temps. Et donc, ce que je propose, c'est de revenir à ce mot osium, de revenir à cette qualification du loisir intelligent pour mieux le valoriser pour nous-mêmes et vis-à-vis des autres, et pour mieux comprendre aussi que cet osium, si nous ne nous en saisissons pas, en fait, il est parfaitement utilisé et recyclé par le marché. Et pour une chose simple, et c'est là aussi que la sémantique nous aide beaucoup, c'est que l'autre nom du marché, c'est le négoce. Et comme vous savez, vous avez fait un peu de latin, le négoce, c'est nec osium. Donc au fond, nous comprenons, avec ce détour sémantique, que l'autre nom du marché est fondé sur la négation de cet osium. Et donc, ce marché qui pèse tant sur toutes les zones de notre existence, dans la culture, dans la connaissance, dans la santé, et qui nous étouffe, et où on sent bien qu'il n'a pas sa place, eh bien, ce marché, nous pouvons l'évacuer de notre temps libre en nous réappropriant ce mot osium. Et vous savez, en psychanalyse, quand on n'a pas de mot pour qualifier une situation, on reste bloqué. Ben moi, je livre ce mot à nos contemporains
osium.
Pour qu'ils l'utilisent et qu'ils en fassent un instrument de liberté.
Et pour approfondir, on invite vraiment tous les auditeurs à lire ce livre, ce petit livre, L'osium du peuple à la reconquête du temps libre aux éditions Sciences Humaines. Merci, Jean-Miguel Pierre.
Canal Académie.